Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise, conseiller régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Philippe Juravert, en cette rentrée où la crise de l'énergie est au cœur de toutes les préoccupations, nous allons évoquer la question des transports en commun en Île-de-France. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours? Si vous connaissez si bien la question des mobilités, c'est que vous avez travaillé à la RATP, vous avez été conducteur de RER.
Voilà, en fait j'ai travaillé 30 ans à la RATP. J'ai été 20 ans conducteur du RER, notamment sur le RER B, mais j'ai surtout eu une responsabilité syndicale. Pendant 10 ans, j'ai été donc de 2002 à 2012 président de la commission économique au niveau du département RER, ça correspond au RER A et B, et qui réunissait 3000 agents RATP. Donc ça m'a permis de brosser tous ces dossiers économiques avec la région. À cette époque-là, c'était Jean-Paul Huchon, et donc ça m'a donné une connaissance, en effet, des problèmes structurels concernant les RER, mais également économiques concernant l'exploitation des RER et du métro.
Alors aujourd'hui, vous êtes conseiller régional d'opposition au sein de la région Île-de-France et Philippe Juravert, vous alertez sur les dysfonctionnements au sein du réseau RATP-SNCF qui affectent les usagers au quotidien. J'aimerais d'abord qu'on parle du système Nexteo qui était censé augmenter la cadence des trains à Châtelet-Les-Halles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce système et pourquoi la société Réseau SNCF semble se désengager du projet?
Alors, il faut savoir que dès que j'ai eu connaissance de ce projet, qui en fait est arrivé en 2016, mais j'ai été élu moi en 2021, et donc dès que j'ai eu connaissance de ce projet, je me suis totalement opposé à ce projet. Nexteo, en fait, ça consiste à une automatisation partielle du RER B et D. Ça permet, en cas de dysfonctionnement de la ligne, de reprendre par une conduite dite beaucoup plus dynamique du retard. Voilà. Et ils espèrent, avec ce projet Nexteo qui coûte quand même plus d'un milliard, ils espèrent pouvoir trouver l'équivalent d'un projet que j'ai défendu depuis plus de 20 ans, qui est le double tunnel à Châtelet. Et donc, ce double tunnel à Châtelet, personne n'en veut dorénavant, non pas parce qu'il correspond à une rupture de charge importante, par exemple sur le RER B, le temps de la construction, ou son coût, qui est estimé à environ 3 milliards, c'est pas simplement ça. C'est, si vous comparez au Grand Paris, c'est uniquement parce que ce projet de double tunnel ne sollicite pas suffisamment les grands pourvoyeurs d'argent, à savoir, je pense à Vinci, je pense à Bouygues, regardez le Grand Paris, où le prix du mètre carré augmente le long de sa construction. Il y a tout un chantier qui s'organise autour du Grand Paris. Un double tunnel ne servirait que les usagers et rien que les usagers. Donc ce serait purement un intérêt collectif. Voilà pourquoi je défends ce projet.
Et ce projet, s'il était accepté par exemple par une prochaine majorité au Conseil régional, il pourrait voir le jour en combien de temps?
Alors il faut savoir que le temps d'une construction, je le fixe à moins de 3 ans, le temps de cette construction. L'avantage, par contre, ce serait d'avoir, un site propre à chaque ligne, RER B et D, qui permettrait de quasiment doubler, si on le souhaitait, la fréquentation du trafic. Et ça porterait, d'une part, une plus grande sécurité, mais surtout une mesure pérenne. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème de dysfonctionnement, chaque ligne aurait ses moyens d'exploitation et permettrait une meilleure réactivité.
Si j'ai bien compris, Nexteo, pour l'instant, est bloqué. Votre projet, celui que vous présentez, ne peut pas avoir lieu dans le contexte actuel. Que va faire la région Île-de-France?
La région Île-de-France, Valérie Pécresse, la présidente, me l'a déjà dit. Ils ont déjà investi, donc près de 200 millions, si je ne me trompe pas, sur ce projet. Pour beaucoup, ce projet représente un avenir parce qu'il permet, en termes d'ingénierie, de se conformer à des choses qui existent sur d'autres réseaux. Et donc, ils vont favoriser, mettre la pression sur la SNCF afin qu'ils puissent honorer ce projet, ce contrat qui a été engagé. La SNCF maintenant se rend compte, ce que j'avais prévu déjà il y a un an, qu'il risque d'y avoir un débordement financier par rapport à ce projet, sans pour autant garantir un résultat optimum. Donc la SNCF, qui avant tout, avec les cheminots qui sont avant tout des techniciens, savent très bien de quoi ils parlent et ils veulent pas s'engager dans un projet qui leur porterait préjudice. Mais pour autant, devant la pression qui sera certainement politique et les engagements qui concernent les matières infrastructures, hein, la SNCF, qui sont énormes, je ne sais pas quel sera le résultat. Voilà. Dans le contexte politique, je crois que une pression énorme sera mise pour faire que Nexteo puisse exister. Moi, je n'ai d'autre chose à faire que de monter une opération, et c'est ce que je vais faire, hein, pour la France Insoumise, une opération de telle manière à médiatiser, à lancer une consultation au niveau de la population, de telle manière que les usagers, les associations d'usagers, et également toutes celles et ceux qui cherchent à s'y intéresser, parce que ça concerne quand même 1 600 000 voyageurs, hein, RER, B et D, soit un peu plus de 10% de la population d'Île-de-France. C'est pas rien.
Alors, on vient de parler du problème qui concerne les RER B et D, mais il y a aussi le RER C. Les usagers ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que 19 trains par jour sont supprimés depuis la rentrée parce qu'on manque de conducteurs. Comment expliquez-vous la situation ?
Alors, déjà, je vais vous conter un petit peu ce que m'a répondu la présidente, hein, en pleine commission. En pleine séance Île-de-France Mobilité, à savoir
Valérie Pécresse.
Si la SNCF était capable de faire plus avec moins, c'était très bien. Je l'avais à l'époque alerté sur le fait que il y avait des calculs d'effectifs qui étaient totalement erronés sur les lignes de RER C, B, D et d'autres, mais la C notamment. À savoir, ils sont en sous-effectif. Depuis l'opération Covid qu'il y a eu, il y a eu forcément une baisse de l'offre de transport. Et les lignes ont fonctionné au ralenti. Depuis, petit à petit, il y a eu une augmentation du trafic aux heures de pointe et un tassement aux heures dites creuses. Et donc, dans ces heures de dites creuses, ça a permis à la direction du RERC de pouvoir économiser au niveau de son budget et la masse salariale, en disant on va essayer de faire plus ou tout aussi bien, avec moins d'effectifs. Il y a moins de conducteurs. Donc, ils n'ont pas anticipé sur les départs à la retraite, ils n'ont pas anticipé sur toutes les défections qu'il y a pu y avoir depuis que, vous savez, depuis que la SNCF donc a changé de statut. Il est évident qu'il y a eu un départ massif des conducteurs, notamment, et donc, ils n'ont pas du tout anticipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces lignes-là, il y a une guerre qui se crée, parce que ils ont énormément de mal à embaucher. Et ils ont une pression de la région, notamment de Valérie Pécresse, pour pouvoir continuer à optimiser. Et si jamais ils n'optimisent pas leur régularité, leur trafic, eh bien ils reçoivent des pénalités.
Philippe Juravert, la RATP est aussi à la recherche de 1800 chauffeurs de bus. Que doit faire l'entreprise pour attirer ces nouveaux chauffeurs ?
Comme il y a eu la perte du statut déjà, il n'y a aucune garantie pour les chauffeurs, hein, de pouvoir avoir des garanties sur leurs conditions de travail, sur leur déroulement de carrière. Tout cela, on n'en parle plus. Il faut, d'une part, consolider au niveau du statut ce qu'il est possible d'embaucher les conducteurs, et d'autre part, augmenter les salaires. Parce que les salaires qui sont proposés compte tenu du travail qu'on leur demande de fournir, plus personne ne veut être conducteur. Et ils ont de plus en plus de machinistes qui laissent leur emploi au bout d'une semaine, deux semaines d'embauche. Il y a en termes d'embauche des machinistes, une formation qui était donnée, qui n'est plus donnée aujourd'hui, parce que comme on se libéralise de plus en plus, la formation est quelque part bâclée. On essaie de récupérer ce qu'on peut comme chauffeur. D'ailleurs, on demande aux machinistes de parrainer des embauches moyennant une prime des chauffeurs de bus. Toute cette culture n'existait pas auparavant. Avant, on était, je veux pas dire fier, mais on était heureux de rentrer dans cette entreprise. Il y avait vraiment une culture d'entreprise qui n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est la privatisation.
Philippe Juravert, Valérie Pécresse organise un conseil extraordinaire d'IDF Mobilité le 13 septembre pour faire le point sur une série de contentieux avec SNCF Réseau. Elle veut que le constructeur Alstom s'explique sur les retards dans les livraisons de trains neufs. Comment expliquez-vous cette série de retards dans les projets?
Alors déjà, pour ce qui est d'Alstom, évidemment, ils ont cumulé. Et tant mieux pour eux, ils ont cumulé beaucoup de commandes, mais c'est vrai que pour ce qui est des matériels, je pense qu'ils ont trouvé, d'une part, de grosses difficultés techniques concernant la construction de ces matériels. Il faut embaucher déjà, il faut de l'espace. Il y a eu toute une compétition qui s'est livrée avec Bombardier et d'autres, donc je pense qu'il y a tout ça qui complexifie un petit peu leur plan de livraison. Mais au-delà de ça, je crois que les retards qu'il peut y avoir pour ce qui est des livraisons de matériel, mais également les engagements qui sont pris avec Valérie Pécresse, eh bien, je crois que les demandes qui sont faites sont beaucoup trop fortes par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'on exige à la SNCF, à la RATP et à Alstom de pouvoir moderniser et de pouvoir livrer du matériel en très peu de temps. Il y a les Jeux Olympiques en 2024, il y a eu des élections présidentielles, mais il y a les prochaines qui seront en 2027, et il y a un enjeu politique énorme que mène, et une pression politique énorme que mène Valérie Pécresse. Et ça, quand on veut parler de service public, ce n'est pas possible. Sauf que elle ne parle plus de service public. Aujourd'hui, on parle d'offres de transport, on parle de clients, et donc de contrats. Et on n'est plus dans le cadre d'un service public avec Valérie Pécresse. Donc elle accélère, elle met la pression. Résultat, on a la SNCF qui n'honore pas ses contrats et qui veut se débarrasser de, on verra ce qui se passera, de Nexteo. On a la PDG RATP qui démissionne, certes pour raison personnelle, mais elle démissionne quand même. Donc imaginez cette réunion du 13 où on va voir une SNCF qui fait un bras de fer avec Valérie Pécresse, une RATP qui représente un petit peu un canard sans tête, puisque la PDG démissionne, et Alstom, qui de toute façon ne pourra pas faire plus qu'il ne peut en ce moment. Donc le 13, ça va être une réunion où il y aura beaucoup de tensions, où elle risque d'être très ferme, et en ce qui me concerne, je vous le dis, ça sera certes sous le terme de l'ironie, mais je lui dirai, écoutez, si vous ne savez pas comment nouer des contacts et des liens fidèles, quoi, avec nos partenaires, et bien moi je vais me présenter comme PDG à l'RATP. Vu mon expérience, peut-être qu'on trouvera une complicité, si ce n'est avec vous, mais avec les salariés. Parce que c'est ça aussi. Il faut aussi convaincre les salariés de pouvoir rentrer dans cette dynamique, et c'est pas le cas.
Philippe Juravert, en cette période d'inflation, est-ce que on devrait s'inspirer de l'Allemagne, qui a instauré un ticket de train mensuel à 9 euros, ce qui a permis d'économiser 1,8 million de tonnes de CO2? Est-ce qu'on doit s'inspirer aussi de l'Espagne, qui a instauré un pass ferroviaire gratuit?
Alors, il faut savoir que avant cet été, j'ai fait une proposition concrète à Valérie Pécresse pour une essence à plus de 2 euros. Je proposais que il puisse y avoir la gratuité. Tant que l'essence est à plus de 2 euros, qu'il puisse y avoir la gratuité dans les transports. Ça a été refusé, évidemment. Or, le coût aurait permis, en tous les cas, de fidéliser dans les transports. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, et ailleurs d'ailleurs, hein, parce qu'on dit en Allemagne et en Espagne, mais ailleurs aussi, hein, on pense que Valérie Pécresse a fait le mauvais choix, toujours guidé par une valeur marchande. Et malheureusement, ça a contribué à faire des embouteillages, plus de pollution et plus de mécontents, parce que on le voit aujourd'hui, il y a eu des catastrophes ferroviaires de partout, sur notre réseau Île-de-France, et un gros mécontentement, notamment sur le RER B. Pourtant, elle voulait faire du RER B sa priorité. Ça n'a pas été le cas tout l'été.
Est-ce qu'on pourrait agir notamment sur le coût du pass imaginaire pour les jeunes? Je rappelle qu'il coûte 75 euros par an pour les collégiens, 350 euros pour les lycéens.
Alors, ça a été une demande pour nous à la région, hein, et ça continuera de l'être, hein, pour ce que je dirais entre guillemets la NUPS, hein, chez nous, hein, À savoir que ce soit nous pour la France Insoumise, mais Écologie et Parti Socialiste, nous demandions la gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans, 26 ans. On continue à demander cette gratuité. On l'a quantifié, c'est possible de le faire. En tous les cas, on continuera de mettre la pression. Pourquoi ? Parce que le prix d'énergie et d'essence n'est pas prêt de baisser, même s'il y a eu des compensations. Donc il faudra bien qu'à un moment donné, il puisse y avoir une action très ciblée qui permette en effet de permettre un contentement vis-à-vis des usagers. Or, je pense que vis-à-vis des jeunes, ce serait déjà quelque chose de très fort qui pourrait être fait. Donc on va relancer ce travail pour tout le groupe d'opposition pour tendre vers une gratuité, même si elle ne le peut pas, considérant qu'il faut responsabiliser les usagers. Or, je pense qu'ils sont suffisamment embêtés pour aujourd'hui dire que au moins nos jeunes pourraient avoir cette gratuité.
Philippe Juravert, vous êtes conseiller régional de la France Insoumise. Est-ce que l'expérience de la NUPES aux législatives vous donne envie finalement d'adopter la même stratégie au sein des différents conseils régionaux ? Est-ce que la NUPES, par exemple, existe actuellement au sein du conseil régional d'Île-de-France ?
Alors pour l'instant, elle n'existe pas, mais des discussions ont lieu. Il faut savoir qu'il y a déjà une grande coopération dans notre travail. Et pour ce qui est de Île-de-France Mobilité, sans pour autant tout le temps nous concerter, nous nous rendons compte que nous partageons beaucoup dans les réponses que nous apportons, beaucoup d'idées qui nous sont communes. Donc cette réflexion, elle est posée sur la table. Je crois que dès cette rentrée, en effet, ce travail va être fait pour essayer de voir comment, à l'image de ce qui se fait à l'Assemblée, il est possible de trouver un moyen de faire un travail beaucoup plus groupé et que cette opposition puisse être encore plus forte, puisse ressentir un petit peu plus forte au niveau de la population. Voilà, il ne faut pas faire apparaître trop de divisions dans l'image que nous donnons à la région.
Philippe Juravert, vous êtes en charge des luttes au sein de la France Insoumise. Vous avez le sentiment que les mois qui viennent seront marqués par une forte mobilisation sociale ?
Il y aura certainement une forte mobilisation, en tous les cas syndicale. Parce que aujourd'hui, les provocations sont de plus en plus grandes vis-à-vis du gouvernement, qui aujourd'hui rappelle qu'il ne veut pas aller dans l'abondance et il parle de fin de l'abondance, mais en même temps, il n'a donné aucun signe encourageant vis-à-vis des organisations syndicales. Bien au contraire, il parle de ces réformes nécessaires à mener sur les retraites, sur le coût de l'énergie. Par rapport à ça, je sais qu'il va y avoir une réponse. La crainte qu'il peut y avoir pour le gouvernement, c'est que, à l'image de ce qui s'est passé en 2018 avec les Gilets jaunes, on voit ce qui se passe en Angleterre, où on voit des regroupements notamment d'usagers, de citoyens qui parlent de grève citoyenne et qui cherchent à se réunir pour pouvoir pas payer les factures d'énergie, ça sera peut-être pas payer le transport ou autre chose. Il va y avoir des opérations qui risquent d'être nouvelles, en plus des syndicats, dans cette rentrée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fini de prendre le citoyen pour quelqu'un de passif. Il y aura des actions syndicales, citoyennes et politiques qui risquent de converger. Donc, oui, il est à craindre un grand mouvement social dès cette rentrée.
Merci Philippe Juravert. Je rappelle que vous êtes responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise et conseiller régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Je vous remercie.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.